Nous vous proposons de voyager dans le temps à la fin du XVIIIe siècle pour découvrir l'histoire de ce site singulier qui a marqué l'histoire industrielle des Amareña Lucense. Pendant cette promenade, vous écouterez la voix d'Antonio Ibáñez, principal artisan de ce projet industriel, ainsi que d'autres témoignages de l'époque. Nous confronterons notamment leurs déclarations au sujet de la mutinerie et de l'attaque perpétrée contre la fonderie le 30 avril 1798. Pour profiter pleinement de la visite, veuillez suivre ces indications. Après avoir lancé la lecture, il est important de ne pas l'interrompre jusqu'à la fin. Respectez les indications de manière à suivre le bon parcours, faites seulement les arrêts indiqués expressément dans l'enregistrement et, surtout, marchez à pas lents et à un rythme constant. Le point de départ de la visite est la porte d'entrée du Museo Histórico.
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le premier site industriel développé par un particulier en Galice pour satisfaire la demande de l'État. Nous allons visiter l'ensemble historique et industriel de la fonderie construite à Sargadelos entre 1791 et 1794, qui comprenait un haut fourneau et une masse. En autres dépendances, dépôt de charbon, menuiserie, forge, abri, entrepôt, logement des ouvriers et maison principale, barrages et canaux de conduite d'eau. À présent, nous sommes devant ce qui fut la maison d'administration du site. Le promoteur de ce projet fut Antonio Raimundo Ibáñez et la fonderie a maintenu son activité jusqu'en 1875 de manière plus ou moins continue. À travers cette promenade, nous souhaitons vous proposer de voyager dans le temps à la fin du XVIIIe siècle et de découvrir l'impact de ce projet industriel d'Ibáñez dans cette société par le biais de témoignages de certains personnages de l'époque. Mais, avant de commencer la visite, nous allons commencer par écouter le personnage principal de cette histoire.
On m'appelle Antonio Raimundo Ibáñez Gastón de Sabayano y Baidés, et on a voulu me conférer le titre de marquis. Mais pour moi et pour l'histoire, je suis simplement Antonio Ibáñez, originaire de Los Oscos et habitant de Ribadeo. Dans ce village portuaire, je travaillais dans le commerce et importais des produits étrangers que l'on ne trouvait pas dans le pays. Des eaux vives et des liqueurs de Catalogne, du lin fin de Russie, de l'acier de Suède, de la morue de Terre-Neuve, des marmites de Bordeaux. Cependant, je sais très bien que l'essence même du commerce ne réside pas dans l'achat à l'étranger. L'industrie doit être active, naturelle et proportionnelle aux besoins de notre territoire et elle doit procurer tous les avantages possibles afin de développer les arts dans notre pays. Animé par ces sentiments patriotiques, entre autres, j'ai proposé d'installer à Santiago de Sargadelos, juridiction de San Cibrao, seigneurie de l'évêché de Mondoñedo, de nouvelles usines de fer pour remplacer les anciennes forges et produire des planches, des chaudières, des clous, des encres et toutes sortes d'objets en fer. Personne ne pourra arguer légitimement que l'usine proposée porte préjudice au pays ou à la prospérité des bois. Un tel axiome est fallacieux. Et pourtant, il a été admis par la rusticité du paysan et souvent colporté par le fanatisme du riche. Contre le détestable monstre de l'envie, consultez tout d'abord les habitants de Santa Maria de Rua n'a servi à rien. Après m'avoir donné leur consentement, après avoir sollicité la concession et après avoir reçu le brevet du roi autorisant l'installation d'une ou de plusieurs forges avec leur martinet et une fabrique de pots de fer. Non, tout cela n'a servi à rien, puisque je me suis trouvé impliqué dans un procès très coûteux contre des gens nantis. Le commissaire de la Marina de Viveiro, le chapitre de Mondoñedo et même le député du royaume à la cour. Ils se sont tous opposés férocement à mes intentions de moderniser les arts de notre industrie. Leurs demandes n'ont pas abouti, mais nombreux sont ceux qui continuent à s'en prendre secrètement aux charretiers de bois et aux avancées de la fabrique. Le curé paroissial de Chauvé, le prêtre de las Maravillas, les curés Luis Antonio Salgado et Antonio Varela, entre autres prêtres, coalliés de Don Diego Pardo, de Don Antonio de Cora, Don Manuel Antonio Pedrosa et d'autres propriétaires et personnes de renom qui ont de l'influence et du pouvoir non seulement dans cette province, mais également à Coruña et à la cour de Madrid.
Lors du procès intenté contre l'installation de la fabrique d'Ibanez, certains personnages influents locaux dénoncent l'appauvrissement des bois environnants en raison de l'exploitation des réserves d'arbres. Ils accusent également Ibanez de ruiner la zone avec ses importations de lin et de chercher uniquement son enrichissement personnel. Mais, par-delà ces arguments, ce qui est mis à jour est la réaction d'un système social dans lequel la base du pouvoir réside dans la propriété terrienne que seule une minorité détient face aux changements entraînés par l'arrivée de l'industrialisation. En effet, toutes les personnes employées dans la fabrique auront plus d'autonomie et échapperont au contrôle des propriétaires terriens. Une fois que le jugement est rendu en sa faveur et que la fonderie commence à produire, l'hostilité contre Ibanez ne fait qu'augmenter. Des années durant, les incidents se succèdent. Incendie volontaire, épisode de soulèvement contre les commissions de contraintes employées pour les charriages de charbon obligatoires et menaces constantes contre Ibanez. Ce climat de tension s'envenime à tel point que le 30 avril 1798, la fabrique est prise d'assaut. Eh bien, après avoir situé le contexte, nous pouvons débuter la promenade. Nous allons nous positionner dos à la maison d'administration et ensuite descendre vers la droite en empruntant le bas-côté.
À chaque fois que je passe devant ma maison, le souvenir de ce 30 avril 1798 refait surface. Une foule d'hommes et de femmes des environs, dirigés par certains caudillos, meneurs de l'émeute et armés de fossiles, bâtons, sabres et certains même de fusils, ont pris d'assaut des fabriques, démoli, pillé et incendié la maison principale, les logements des ouvriers et de leurs familles, le four et la forge avec tous les métiers, les forges, l'entrepôt à provisions, les outils, moules, ustensiles, archives et tout ce qui était mobile. Ils ont même détruit les portes et les fenêtres des maisons. Les vases sacrés des hôtels de la chapelle n'ont pas échappé au pillage.
Maintenant, attention, car nous devons traverser la route. Nous allons le faire avec précaution, une fois arrivés au niveau du portail du jardin de la maison de l'administration. Vérifiez qu'il n'y a pas de voiture sur la route, traversez et dirigez-vous vers ces maisons en ruine qui se trouvent de l'autre côté. Nous allons faire une halte au niveau de la première maison avant d'emprunter la rue qui continue en face. C'est la zone où logeaient les ouvriers de la fabrique et leurs familles. La première maison, à droite, qui a un portail en bois, était au Maison. La construction abritait des logements et une cantine. Et ce que nous avons devant les yeux est la Rua do Medio, une voie qui répond à un aménagement urbain du XVIIIe siècle et l'un des premiers liés à un espace industriel. Nous avons devant nous une rue avec son trottoir et des logements. C'est ce qui donne de l'habitabilité à l'ensemble, une qualité essentielle, car un site de production est associé inévitablement à un centre de vie. Il faut travailler, mais aussi vivre dans cet endroit. Les ouvriers et leurs familles fixaient ici leur résidence, certaines dans cette rue, d'autres dans des maisons en bois, aujourd'hui disparues, mais dont il reste une trace dans la toponymie des alentours. Au Barrio dos Ingleses, le quartier des Anglais, ou au Barrio das Casetas, le quartier des cabanes. Comme vous le verrez, les logements de la Rua do Medio n'ont pas échappé à la furie des attaquants. Maintenant, vous pouvez continuer à marcher, et une fois arrivé à la fin de la rue, nous allons à nouveau nous arrêter.
Roque Gomez, 31 ans, originaire de Mondoñedo et habitant du lieu-dit de Sargadelos, employé à la fonderie comme mouleur. Le 30 avril, vers 2h de l'après-midi, on a entendu sonner la cloche de l'église de Cervo et d'autres encore plus loin. Ensuite, on a entendu des sonnettes et des tambours d'une chasse à courbondée. Mais au lieu d'aller vers les bois pour chasser des loups, le grondement s'approchait de plus en plus des usines. On aurait dit qu'ils avançaient vers nous. Des centaines et des centaines d'individus sont arrivés de tous les côtés criant « Mora Ibáñez !» et d'autres consignes dont je ne me souviens pas. Surpris par le vacarme et désarmés comme nous l'étions, nous n'avons opposé aucune résistance. Eux étaient armés de bâtons, de faucilles et de piques. Ils rouaient de coups de tout ce qu'ils trouvaient à leur passage et lançaient des pierres. Nous avons couru pour nous mettre à l'abri et lorsque nous sommes revenus, le lendemain, les maisons n'avaient plus de portes et on nous avait volé tous nos outils et nos vêtements. C'est ce qu'on a plus regretté parce que c'est tout ce que nous avions. Je ne comprends pas pourquoi ils s'en sont pris comme ça à la fabrique. Nous sommes beaucoup d'hommes et de femmes à avoir de quoi manger, un toit et un métier grâce aux fabriques. Maintenant, nous avons des connaissances sur notre métier et le travail que nous effectuons a une valeur qu'il n'avait pas avant.
Au bout de cette rue d'Omedio, après avoir passé la dernière maison, il y a des marches qui donnent sur un autre espace ouvert, délimité à gauche et en face par des murs, et à droite par un canal d'eau. Juste ici, à droite, vous verrez un arc en pierre. Eh bien, nous allons nous arrêter par ici, avant de traverser un petit pont en bois sur le canal. Toute cette zone était occupée par le four de la fonderie, aujourd'hui complètement en ruine, comme vous pouvez le voir. L'arc en pierre était à côté du soufflet qui alimentait le four, qui était actionné par la force hydraulique. Ce fut l'un des premiers objectifs des émeutiers.
Julio Rey, paysan, habitant dans le lieu-dit de Trasbar, à Santa Maria da Rua. Je déclare que, ayant habité toute ma vie à cet endroit, jusqu'à l'arrivée de la fabrique de fer qu'Ibáñez a installée à Sargadelos, nous n'avions jamais subi autant de persécutions et de contraintes à la suite pour respecter les délais de charriage de charbon qui souvent arrivaient en retard. Nous ne pouvons pas non plus laisser les troupeaux libres dans les champs, ni ramasser les bois à notre guise, comme on l'a toujours fait. On nous oblige à charrier avec nos propres charrettes, nos vaches et nos bras, et ce n'est pas pour rendre service au roi, comme ils le prétendent, mais pour donner plus de bénéfices aux propriétaires de la fabrique. Tous les habitants le savent bien qu'il y a des patages chargés de munitions à conduire en France, et non à l'arsenal de Ferrol. Il vaudrait mieux l'incendier, la fabrique, car on ne devrait pas l'accepter ici, même si le roi l'y a mise. C'est pour cela que nous sommes unis tous les habitants de Rua, Cervo, Castelo, San Román, Urella, Nois et même de Baladoro et Mondoñedo. Convoqués avec des lettres et des émissaires ou en hurlant dans les foires pour aller jusqu'aux fabriques. Oui, on nous a également appelés pour participer à la chasse à cour le lundi 30 avril et non pas pour le premier du mois, comme à l'accoutumée, sous peine de 4 duchés, pour augmenter le nombre de participants. Ainsi, on a pu réunir plus de 4000 personnes et il était environ 14 heures quand nous avons commencé à avancer vers la fabrique. La première chose à faire à notre arrivée, c'était de mettre le feu au grand soufflet du four de la fonderie pour les obliger à arrêter le travail. Ensuite, des groupes sont allés à l'entrepôt de la poudre du roi et d'autres aux ateliers, où il y a eu de la résistance, et à la maison principale pour donner chasse aux propriétaires. Mais il y avait tellement de gens et tellement de colère que la foule s'est précipitée un peu partout, sans raison apparente.
À présent, nous allons traverser le petit pont en bois sur le canal pour nous approcher du bâtiment situé de l'autre côté, à droite. Là-bas, nous ferons à nouveau une halte. C'est la Casa das Máquinas, la maison des machines. Les pièces qui sortaient de la fonderie étaient transportées jusqu'à cet atelier où on les assemblait. Il y avait des éléments architecturaux, tels que des balustres, mais aussi des poêles, des cuisines, des marmites, des mortiers, des pompes à vapeur et des cales pour des bateaux. Et plus tard, des tuyaux pour la conduite du gaz et de l'eau. Eh bien, ici dans cet atelier, a eu lieu le premier affrontement direct avec les assaillants.
Je m'appelle Thomas Morland. Je suis moins capuçon. Je suis arrivé de France pour échapper à la Révolution et Antonio Ibáñez m'a généreusement accueilli. Grâce au truchement de l'évêque de Mondoñedo et de l'or, j'ai souhaité me rendre utile dans sa maison ou à la fabrique. Après avoir fui mon pays, j'ai prié pour ne pas revivre des événements comme ceux qui m'ont forcé à partir. Le 30 avril, je me suis vu cerner à nouveau par une foule haineuse et criminelle. Je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu des tambours, des cors et des cris. Je me suis présé aux ateliers où se trouvait Francisco Acevedo, beau-frère d'Ibáñez et le lieutenant Ruiz de Cortázar, avec les membres de la garde veillant sur la fabrique. Devant de la passivité du lieutenant, Acevedo m'envoya dehors pour tenter de calmer la foule et de découvrir ce que voulaient tous ces gens. Il espérait que mon habit arrêterait les émeutiers. Mais je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Plusieurs hommes se sont précipités sur moi et m'ont ouvert les crânes à coups de bâton. Ils m'ont volé les barbières. Je suis tombé par terre, mais j'ai tout de même pu les voir lancer des pierres contre la troupe et les ouvrières là-bas réunies. Lorsqu'ils blessaient un soldat, l'officier l'a fait tirer en l'air et certains ont exécuté l'ordre en tirant des coups de feu, auxquels ils ont répondu également avec des tirs et au final, il y a eu un mort et beaucoup plus de blessés.
Nous allons poursuivre notre promenade. Tout d'abord, positionnez-vous de manière à tourner le dos au bâtiment de la Casa das Máquinas. Et maintenant, avancez. Localisez un passage qui s'ouvre dans ce petit muret devant vous, un peu à gauche. Vous l'apercevez ? Eh bien ensuite, vous allez entrer dans un champ où il y a des tables en pierre avec des bancs. Vous y êtes ? Nous allons nous rendre jusqu'à la table qui se trouve devant la grille, légèrement à droite. Nous nous arrêterons là-bas. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. L'important est de regarder vers la route qui va derrière la grille. De l'autre côté, vous allez voir un bâtiment en pierre d'un étage très long. Il abritait l'entrepôt de manufacture de la fabrique, conçu de manière à laisser passer peu de lumière naturelle et permettre l'entrée et la sortie des charrettes. Ces entrepôts ont également servi de logement aux soldats et aux chevaux du régiment de la Princesse, stationné à Sargadelos, en tant que corps de garde peu après 1794, date à laquelle la fonderie a commencé à travailler exclusivement pour fournir des armes et des munitions à l'armée. Curieusement, au cours des événements du 30 avril 1798, la présence de ce détachement de soldats n'a pas empêché l'émeute.
Je parle pour moi, Francisco Ruiz de Cortázar, lieutenant au commandement du régime de la Princesse destiné à la protection de la fabrique royale de munitions de Sargadelos. Le premier coup de feu a été tiré par l'un des émeutiers. Nous avons appris son nom après son arrestation. Il s'agit de Manuel Motti. Après cela, j'ai donné l'ordre de tirer en l'air pour arrêter également les jets de pierre que les émeutiers ont commencé à lancer contre nous. Il y a eu des tirs des deux côtés et on a décompté 6 blessés et un mort, la victime étant Tomás de Viñas, qui a succombé à une blessure par balle dans la poitrine. La mort de cet homme, calme, en principe la fureur des émeutiers, qui demandent à parler avec Francisco Acevedo, le responsable de la fabrique. Mais dès qu'il a mis un pied dehors, on l'a roué de coups, on lui a lancé des pierres et on l'a criblé de coups de bâton. Les ouvriers de la fabrique l'ont mis à l'abri, car moi j'essayais de contenir les esprits de la troupe afin de ne pas empirer la situation avec plus de victimes. Pendant plusieurs heures, nous sommes restés alertes. Nous avons protégé les munitions appartenant à la couronne et nous avons été témoins du pillage jusqu'à 22h30, heure à laquelle est arrivé Bernardino Tejada, commandant du Ribeiro, au 3e bataillon d'Afrique. À ce moment-là, la nuit était tombée, il ne restait plus que quelques ivrognes sur place. Son Excellence les a convaincus qu'on leur rendait justice et qu'ils seraient libérés de l'oppression à laquelle ils étaient soumis à cause d'Ibáñez. Et sur bonne parole, ils sont partis sans aucun remue-ménage.
Rita Fernández, veuf, habitant du lieu-dit de Cordido. Le 30 avril, j'étais dans la fabrique de Sargadelos, en train d'accompagner des voisins. Ils avaient tout été convoqués à la foire de Cordido par des gens qui allaient aux fabriques demander qu'on ne le dérange pas autant avec les charriages pendant le semail. Voilà, ils avouent qu'ils subissent beaucoup de gens de sa lenteur et on ne parle pas d'autre chose que de ce dénommé Ibáñez, qui est le propriétaire de ces fabriques. Et pas seulement dans les maisons, sur le chemin et dans la foire aussi. Parce que moi, j'ai entendu de la bouche du curé lui-même que la nuit, Ibáñez entre dans les chambres de servants et de son fond pour leur prendre du sang, qu'il enlève un homme par semaine pour les cuire et lui extraire son essence. Quand on est arrivé à la fabrique, ce sont les soldats qui ont tiré en premier. D'autres aussi, qui devaient être des ouvriers. À côté de moi, plusieurs personnes sont tombées. Après, c'est moi qui suis tombée. J'étais blessée au ventre. Le médecin qui m'a examinée m'a dit qu'il m'avait laissée pour morte. J'ai tellement marché que la blessure s'est ouverte. Et maintenant, je continue comme ça. incapable de rien faire et sans pouvoir manger, et accusé de rébellion et d'incendie volontaire. Je ne sais pas combien de choses encore, donc je ne peux pas me défendre.
Nous devons y aller. Nous poursuivrons la balade vers la gauche jusqu'à la table en pierre suivante, qui est la dernière. Nous y ferons une autre halte. Si vous continuez à regarder vers la route, de l'autre côté, vous verrez un bâtiment en pierre restauré, plus haut et avec un toit en ardoise. C'était la Carboeira de la fabrique. C'était la Carboeira de la fabrique, où était conservé le charbon végétal servant à alimenter le four.
Les carboïdes et la forge, avec le barrage et le canal, furent les premiers travaux que j'ai fait faire en 1791 par Cosme Álvarez de San Pedro de Cangas. Étant originaire de Los Oscos, une région pleine de forges, je savais que le charbon de chêne faisait un fer de meilleure qualité et j'ai voulu apporter cette innovation à Sargadelos, où les charbonniers ne fabriquaient que le traditionnel charbon de racine de bruyère. Il a fallu faire venir non seulement des architectes de Vizcaya par la forge et des spécialistes dans la fabrication de fer fondu de Navarre, mais aussi un grand nombre de Basques, de Navarrais et d'Asturiens pour la fabrique de charbon et d'autres pour l'extraction et l'exploitation des mines. Il n'y a pas de forge sans charbon et pas de munitions non plus. Avec la guerre déclarée à la France en 1793, il a fallu fondre ici des munitions pour la couronne. Les livraisons étaient immédiates et constantes, et j'ai dû demander le charriage obligatoire pour les satisfaire, un droit qui m'a été octroyé en 1792, et dont je n'ai jamais fait usage jusqu'à la fin de 1794. J'ai voulu éviter ces charriages le plus possible en faisant venir des charretiers des Asturies, et enfin, j'ai mis à mon compte 12 paires de bœufs avec autant de charrettes, qui ont maintenu les fonderies jusqu'alors. J'aurais pu augmenter le nombre, mais les pâturages manquant dans le pays, je n'ai pu le faire et les habitants du coin, animés d'un vif ressentiment envers moi pour avoir perdu ce premier litige, refusèrent de me les vendre. Mais finalement, il a fallu rendre obligatoire les charriages pour respecter les commandes de l'armée du roi.
Nous pouvons continuer. Maintenant, j'aimerais vous montrer les fours de calcination. Tournez vers la gauche. Laissez les carboeiras derrière vous et continuez tout droit. Traversez un passage large et herbeux qu'il y a sur un canal et un peu plus en avant, vous verrez les vestiges de ce four, ce mur en pierre avec 6 petits trous dans la partie basse. Vous l'apercevez ? Parfait, eh bien on y va. Et une fois arrivé, on s'arrêtera devant. Dans ce four avait lieu le premier processus de fonte du métal, la calcination. Lorsqu'il venait de la mine, le fer ne pouvait pas être fondu. Il fallait d'abord le calciner et le nettoyer. En haut de ces arcs en pierre de la partie inférieure, il y avait un grand verre qui se remplissait avec des couches superposées de charbon végétal et minéral de fer. Après, on allumait le feu et on laissait le tout brûler un temps. Le fer que l'on amenait pour la fonte restait au fond de ce verre et le reste se réduisait en cendres et se déposait dans les cendriers. Ce sont ces trous ouverts sous les arcades. Si vous voulez, lorsque vous achèverez cette promenade, vous pouvez monter derrière et de là-haut, vous verrez ces deux grands dépôts dont je parle. Parce que nous, maintenant, nous devons continuer. L'idée est d'atteindre le barrage construit dans la rivière Chunco en 1791. Pour y arriver, nous devons parcourir un chemin que tout le monde connaît comme la promenade des amoureux. Impossible de se perdre, c'est parti. Vous devez revenir sur vos pas et traverser le passage herbeux sur le canal que nous avons emprunté avant. Et juste après, prenez à droite un sentier en terre qui longe le canal. Ce canal va du barrage que nous trouverons au bout de ce sentier à la maison de l'administration, où il y a une petite cascade qui rend l'eau à la rivière Chunco. Par conséquent, le barrage et le canal sont des installations hydrauliques au service de la sidérurgie, comme certains moulins qui se conservent toujours dans le lit de la rivière, un peu plus en aval, entre Sargadelos et Cervo. nous sommes dans un espace industriel qui ressemble peu à ce qui existe de nos jours. Autrefois, les sites de production industrielle s'intégraient dans le territoire dans lequel se trouvaient les ressources dont ils avaient besoin pour fonctionner. En l'occurrence, le bois, l'eau et la pierre. On intervenait dans un espace naturel et il fallait en prendre soin, parce que la production dépendait de ce bon entretien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a un critère esthétique dans les constructions. Elles devaient respecter le milieu naturel. Par exemple, si vous regardez à droite, de l'autre côté de la route, au fond, en bas, vous verrez entre les arbres la fontaine d'Ateya. Lorsque les fabriques ont été laissées à l'abandon à la fin du XIXe siècle, la beauté et l'isolement de ce lieu l'ont transformé en destination idéale pour les couples d'amoureux qui venaient s'y promener. À l'époque, la promenade était le moyen de faire connaissance. La pratique s'est popularisée et l'endroit a fini par recevoir le nom de promenade des amoureux. Mais revenons à la mutinerie de 1798. Après les événements du 30 avril, s'ouvre une procédure judiciaire instruite par l'audience royale de Galice. Plus de 500 habitants sont inculpés et parmi les principaux instigateurs se trouvent Antonio de Cora, Manuel Pedrosa et 18 autres personnes influentes de la zone.
Je m'appelle Manuel Antonio Pedrosa Arias, comte, propriétaire du domaine et du manoir de Pedrosa, seigneur des tours de Villariz et Cortido, dont l'évêché de Mondoñedo est demeurant à Santa Maria del Lieiro. Je dois dire qu'il n'y avait pas de preuves contre moi ou contre les autres accusés qui démontre que nous ayons participé aux intrigues ayant pour but d'attenter à la vie du propriétaire de la fabrique de Sargadelos. Ce sont des accusations sans fondement qu'Ibáñez a fait contre moi et qui n'ont d'autre objectif que de dévier l'attention des authentiques et vraies causes des événements du 30 avril, qui ne sont autres que les abus commis par cet individu. Le fait est qu'ayant obtenu un permis pour installer un martinet, il a construit un four de fonderie dans l'ombre de cette licence. Tirant profit de la condition de fabrique royale, le dit martinet est four et abusant du pouvoir qui lui conférait ses facultés. Il a étendu les prérogatives à tel point qu'il s'est imposé comme maître absolu des vies et des propriétés des habitants, à travers des méthodes si dures et violentes qu'on aurait dit qu'il souhaitait les exterminer tous. Affligé et abattu par les humiliations qu'Ibáñez infligeait, sans ressources dans le royaume et sans juge dans leur juridiction pour les protéger et les défendre, ils ont décidé de se présenter face à lui ou face à son délégué à Sargadelos, le 30 avril de l'année courante, pour lui demander le paiement de ce qu'il leur devait et un traitement plus digne. Mais alors qu'ils attendaient une réponse prudente, proportionnelle aux sentiments chrétiens de la raison et de la justice, ces malheureux n'ont essuyé que des huées, des railleries, et du mépris ainsi que des provocations indécentes, et qui plus est, des coups de feu et des grenades qui firent un mort et plusieurs de blessés, certains d'entre eux très grièvement.
Les attaques n'ont pas cessé, et le jour suivant de la mutinerie, ils ont mis le feu aux provisions de charbon qu'il y avait dans les forêts. Ils ont détruit la fabrique de tuiles. Ils ont maltraité, persécuté et fait fuir les charbonniers de Biscaye et des Asturies. Ils ont fait de même avec tous les employés des installations et ils ont placardé à plusieurs endroits des affiches séditieuses et mettant ma tête à prix. Ce sont ces preuves notamment qui figurent dans l'instruction. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas les mentionner. Je ne vais pas perdre plus de temps à répondre à des injures et à des mensonges. Il me suffit de rappeler qu'on a entendu dire au greffier Santos quelques jours après la mutinerie « Le dit tumulte du 30 avril a été mal fait, car si Ibáñez était mort, cela aurait été comme pour une araignée. Une fois morte, il n'y a plus de toile. » Il voulait ma mort, sans aucun doute, mais ils n'ont fait que détruire la toile, et moi qui suis l'araignée, je suis encore en vie, et j'en tisserai une autre.
Nous arrivons à la fin des promenades des amoureux, où se trouve le barrage de la rivière Chunco, un des premiers ouvrages réalisés en 1791 pour l'installation de la fabrique de fer de Sargadelos. C'est ici que s'achève cette promenade. Vous pouvez vous approcher de ce petit mirador en pierre qui se trouve devant vous, depuis lequel vous verrez mieux le bassin et la cascade. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire que finalement, le procès de la mutinerie s'est terminé fin 1802 avec la signature d'un document notarié de réconciliation par les instigateurs et Ibáñez. Cet écrit a été approuvé par Charles IV en février 1803. Entre autres, ils conviennent que les accusations d'instigateurs, moteurs de la mutinerie, entre autres, qu'Antonio Raimundez Ibáñez a lancées contre Manuel Pedrosa, et celles que ceux-ci ont utilisées contre Ibáñez, qui le traitait d'oppresseur, de tyran, entre autres, n'aient aucune valeur ni effet et soient effacées de ce procès. On suppose qu'Ibáñez ne s'en est pas si mal sorti et que les instigateurs ont payé bien moins que ce qu'ils auraient dû en principe pour la destruction de la fabrique. Toutefois, peut-être que le conflit ne s'est pas achevé ainsi, car quelques années après 1809, Ibáñez sera assassiné à Ribadeo par une foule qui prit d'assaut et pilla sa maison. Merci de m'avoir accompagné dans cette promenade. Pour revenir à la zone de la fabrique, vous pouvez emprunter le même chemin qu'à l'aller ou le sentier botanique, c'est-à-dire le sentier qui monte à droite.
N'oubliez pas de rendre les casques au même endroit où vous les avez pris. Les personnages de cette audioguide ont été interprétés par ordre d'intervention par Martin Castro, Aurélie Garrigue, Olivier Cano, Álvaro Trillo, Manuel Cortés et Chris Iglesias. L'édition et post-production ont été à la charge de Jacobe Martinez Antelo. La documentation et le script sont signés chez Sushrom. Cette œuvre n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration d'Elisa Pérez, Camilo Díaz et le personnel de la mairie de Cervo.